Le journal, bonjour Bastien Munch.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Plus de 24 heures après l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani entre Iran et États-Unis, la tension ne retombe pas. Loin de là, Donald Trump se justifie, mais surtout, il se défend de toute ambition guerrière. Message inaudible en Iran, où les habitants estiment que la ligne rouge a été franchie. Nous serons à Téhéran en début de journal. Les autres titres, Bastien.
La mobilisation contre la réforme des retraites qui rentre dans son 30e jour. Trafic toujours perturbé sur les rails. 30 jours, alors les usagers ont largement eu le temps de se tourner vers des alternatives. Les applications de covoiturage croulent sous la demande. Mobilisation qui reprend aussi chez les profs pour la rentrée, vous l'entendrez. Et puis en handball, les Bleus ont impressionné hier à Metz face à la Serbie 40-26. Un match en région et ça n'est pas tous les jours que ça arrive. Votre invité à 8h20, Eric.
Les invités, Thierry Covid, il est chercheur spécialiste de l'Iran. Et avec lui, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. Il a passé quelques jours avec les milices pro-iraniennes en Irak.
France Inter.
Les relations restent hautement inflammables entre Iran et États-Unis. Cette nuit, un nouveau raid des États-Unis a visé un convoi du Hashd al-Shaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran au nord de Bagdad, en Irak. Et cela, un peu plus de 24 heures après l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani par un drone américain. Donald Trump affirme avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une. Selon lui, Qassem Soleimani préparait des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains.
Soleimani était obsédé par le fait de tuer des innocents. Il a contribué à des attentats à Londres comme à New Delhi. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes des atrocités commises par Soleimani. Et nous sommes satisfaits de savoir que son règne de terreur est terminé. Pendant ces 20 dernières années, Soleimani a perpétré des attentats pour déstabiliser le Moyen-Orient. Ce que les États-Unis ont fait aurait dû être réalisé depuis bien longtemps. Beaucoup de vies auraient été sauvées. Encore récemment, Soleimani a dirigé la brutale répression des manifestations en Iran, où plus d'un millier de civils innocents étaient torturés, assassinés par leur gouvernement. Nous avons décidé de passer à l'action jeudi soir pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une nouvelle.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a lui promis de venger la mort de Qassem Soleimani. Il a également décrété un deuil national de 3 jours en Iran. En Iran, où dans les rues, c'est la colère qui prédomine. À Téhéran, le reportage de Servioche Ghazi.
À Téhéran et dans les villes de province, dans la rue, les réactions sont partagées sur le risque d'un conflit. Pour Ali, un iranien de 42 ans, de profession libérale, les États-Unis ont franchi la ligne rouge de Téhéran.
C'était 100% la ligne rouge de l'Iran et les États-Unis ont franchi cette ligne rouge. Depuis des années, on avait affirmé que Qassem Soleimani était notre ligne rouge, mais je ne pense pas qu'on risque une guerre.
Ali, un chômeur de 27 ans, pense que le risque d'un conflit est plus élevé.
Nous avons un sentiment de danger. C'était notre commandant de guerre. Il y a un risque de confrontation de 60%.
Mais son ami Sam Hedayati, âgé de 28 ans, crie vengeance.
À propos de ce qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose qui ne peut être réglé. Nous espérons que les dirigeants du pays donneront la réponse aux États-Unis. Il faut répondre au sang par le sang. Et ils doivent savoir que quoi qu'ils fassent, le peuple est derrière eux.
En tout cas, le pouvoir a promis une dure vengeance contre les États-Unis, sans toutefois préciser l'action qui sera entreprise. Téhéran, Servioche Ghazi, RFI pour France Inter.
Un exil massif en ce moment en Australie. 100 000 habitants et touristes évacués des villes du sud-est à cause des incendies monstres qui ravagent le pays. 3 000 militaires réservistes déployés. Aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies, a déclaré la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud.
La mobilisation contre la réforme des retraites, nous en sommes au jour 30. Et sur les rails, le trafic est un peu moins perturbé.
Oui, comptez 7 TGV sur 10 en circulation, ainsi qu'un TER sur 2, un Transilien sur 5 et un Intercité sur 3. Pour les lignes de métro aussi, la RATP annonce une amélioration. Seules 2 lignes seront fermées aujourd'hui. Mais certains n'ont pas attendu les prévisions de la SNCF ou de la RATP pour réserver un trajet, mais un trajet en covoiturage. Les réservations explosent sur des sites comme Blablacar. 4 millions de trajets réservés sur la plateforme en décembre. Même tendance pour l'application Citigo, spécialisée dans les trajets courts domicile-travail. Son fondateur, Patrick Classe, fait les comptes.
C'est surtout le nombre de passagers qui s'est envolé, qui arrive à plus à se déplacer à cause des problèmes des transports en commun. Ça représente plus de 100 000 inscrits ce mois de décembre. Novembre, on était plutôt autour de 40 000 personnes inscrites, donc c'est plus que 2 fois plus. La plateforme aujourd'hui, elle compte en cumul avec tout ça plus de 900 000 personnes inscrites. Et sur ces 900 000, environ 15% sont des conducteurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui proposent leur trajet pour partager leurs frais et covoiturer via la plateforme. Sur les demandes, là, c'est encore plus impressionnant. On a enregistré 2 millions de demandes de covoiturage au mois de décembre. C'est plus de deux fois ce qu'on a habituellement pour un mois. Et malheureusement, bien sûr, il n'y a pas assez de conducteurs inscrits sur la plateforme pour que tout le monde trouve un covoiturage. On va avoir un taux de réussite de une fois sur deux ou une fois sur trois par rapport aux demandes des usagers.
Eux seront sûrement impactés par une autre grève. Les écoliers, collégiens, lycéens reprennent le chemin de l'école ce lundi. Mais la grève des enseignants pourrait bien morceler leur début d'année. Les professeurs seront mobilisés pour une journée d'action dès jeudi, une journée au minimum. Pour préparer la semaine de mobilisation, une trentaine d'enseignants se sont réunis dès hier en assemblée générale à Périgueux. Le reportage de Mayol de Charon.
Des enseignants qui sont restés mobilisés pendant les vacances. Clément Bruchet, professeur de mathématiques et membre du SNES-FSU.
Il y a eu des Noëls solidaires, c'est-à-dire des récoltes et distributions de jouets et vêtements. Et il y a eu des prises de parole sur la voie publique. Il y a eu également des rébellions, des réveillons de Noël et de Nouvel An festifs dans la rue.
Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Pour Marie, elle est enseignante au collège.
Il y a d'abord un appel à la grève, à une grève massive et générale. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut dire en premier, sans une grève générale massive, je pense qu'on aura du mal à entamer ou à gagner ce rapport de force. Et au-delà de ça, on appelle à différentes mobilisations, différents moments, de différents temps forts où on se regrouperait autour d'actions communes, en fait. Des opérations de communication aussi pour essayer de parler avec les gens.
Comment convaincre les collègues non-grévistes, la place des drapeaux dans le cortège, tout est passé à la loupe pour se faire entendre.
Ce qui nous inquiète, c'est clairement une régression dans le niveau des pensions de retraite, ça c'est évident. Et puis au-delà de ça, on sait que ça va s'accompagner d'une redéfinition du métier, ce qui voudra dire en gros des conditions de travail de plus en plus dégradées, tout simplement.
Comme ses collègues, Marie marchera dans les rues de Périgueux jeudi prochain.
Mayol de Charon de France Bleu Périgord pour France Inter.
De Gaulle avait été le premier à les appeler les commissions Théodule.
Comprenez, les petits comités qui ne servent pas à grand chose. Le gouvernement a aujourd'hui décidé de les liquider. Vaste travail de nettoyage entrepris depuis l'année dernière. Une soixantaine d'organismes ont déjà été supprimés en 2019. 18 autres devraient suivre, notamment dans le domaine du logement, Fabien Cazot.
Ce sont surtout des petites structures qui ont été ciblées par le gouvernement, des comités ou commissions qui réunissent tout au plus quelques dizaines de personnes. Parmi ces organismes, la commission des comptes du logement dans laquelle siège l'économiste Jean-Claude Drian.
Effectivement, le monde du logement est d'une manière générale un monde assez complexe, assez technique, qui justifie qu'on puisse avoir à la fois des approches économiques, des approches sociales sur ce secteur particulier du logement social. Donc cette diversité des commissions, elle reflète la complexité du domaine du logement. Alors est-ce à dire que tout était forcément d'une utilité majeure, qu'elles avaient un vrai apport pour la construction des politiques du logement? C'est pas tout à fait sûr. Ce qui est vraiment dommageable, c'est quand on fait disparaître des outils de connaissance, des outils d'information, parce qu'on se prive de moyens de pilotage des politiques publiques.
La commission des comptes du logement est appelée à disparaître en 2020, alors que ses membres avaient été renouvelés il y a 6 mois et qu'elle ne coûte pas grand-chose, déplore-t-il. Dans le viseur du gouvernement également, le Conseil supérieur des HLM ou encore l'Observatoire de l'épargne réglementée, outil lui aussi à vocation sociale.
Un reportage de Fabien Cazot. Un mot de handball avec l'équipe de France qui a brillé hier soir.
Elle s'est imposée 40 à 26 face à la Serbie dans son tournoi de préparation à l'Euro. Un match qui avait lieu aux arènes de Metz, et ce n'est que la 7e fois que les Bleus s'y déplacent depuis 1973. Il faut dire qu'on ne voit pas souvent l'équipe de France de handball en région, Cédric Langrotte.
En moyenne, les handballeurs tricolores jouent 3 matchs par saison en dehors des limites du périphérique parisien. Sur une vingtaine de rencontres au total, à Metz par exemple, ça faisait près de 10 ans que les Bleus n'étaient pas venus, et le public de la salle des arènes ne s'y est pas trompé au moment d'accueillir Nicolas Karabatic et les siens.
Pour que tout le monde puisse en profiter, tout le monde ne peut pas se déplacer à Paris. Quand ils viennent dans des villes comme Metz ou d'autres, c'est toujours bien de venir les encourager et surtout de les voir.
Quitter Paris-Bercy, ça n'est pas forcément simple. Les joueurs y ont leurs habitudes et pour l'organisateur, c'est plutôt lourd. 120 bénévoles étaient ainsi sur le pont hier à Metz. Mais c'est extrêmement important, comme le reconnaît le sélectionneur des Bleus, Didier Dinard.
Le public français n'a plus autant la chance de voir l'équipe de France puisqu'on est engagé dans une fameuse Golden League qui est un peu lassante. Je pense que notre public a aussi le droit de profiter de son équipe de France.
Et du côté des villes choisies, là aussi on se frotte les mains. Jacques Tron, l'adjoint au maire de Metz en charge des sports.
Ça fait encore rayonner la ville un peu plus. Il n'y a qu'à regarder ce soir, c'est complet. C'est que du bonheur.
Et finalement, Patrick, le Messin se veut philosophe.
On a même de la chance de les avoir si on les a tous les 10 ans, c'est magnifique. Hein.
Cédric Langrotte, France Bleu Lorraine pour France Inter.
Et le dernier match test, c'est demain face au Danemark avant de s'envoler mercredi pour la Norvège qui accueille l'Euro de handball avec l'Autriche et la Suède du 10 au 26 janvier.
Et le journal des sports complet, ce sera dans une heure à 8h10. C'était le journal de Bastien Munch.